La puce M3 se généralise sur toute la gamme des Mac d'Apple et c'est au tour du MacBook Air d'en bénéficier. Le best-seller de la firme de Cupertino est désormais taillé sur mesure pour l'IA. Est-ce vraiment devenu un argument de vente aujourd'hui? Faut-il privilégier un MacBook Air doté d'un écran de 13 ou de 15 pouces? La version M2, encore au catalogue et bénéficiant de promotions en ce moment, n'est-elle pas une meilleure affaire? Ou bien faut-il investir un peu plus et choisir plutôt un MacBook Pro M3? Débat.
Le Mac.
Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, la chaîne d'On refait le Mac. Vous savez qu'on a on a deux chaînes dorénavant, la chaîne d'On refait le Mac et la chaîne d'On refait la F1. Donc si vous êtes fan de F1, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne On refait la F1 qui à terme hébergera tous nos contenus F1 et non plus viendra polluer le contenu d'On refait le Mac. Un bonjour tout particulier aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne sur YouTube. C'est un abonnement payant et en contrepartie, vous soutenez ORLM, ça nous fait plaisir, et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible pour vous en avance. Alors, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, ça peut être... Comme cette semaine, on a enregistré avec quelques jours d'avance, vous pouvez poser des questions en direct, échanger avec nous, à l'équipe au quotidien via Discord, et puis venir nous voir, ça nous tient à cœur, venez nous voir au sein de nos studios ici au Village Baïsia, dans le 8e arrondissement de Paris, vous êtes les bienvenus, et découvrir les coulisses de notre émission. Toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo, ou également en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Et puis n'oubliez pas également notre boutique de goodies, les t-shirts, les mugs et plein d'autres choses aux couleurs d'On refait le Mac, d'On refait la Pop, bientôt aux couleurs des 40 ans d'Apple et certainement bientôt aux couleurs d'On refait la F1 si on a du courage pour s'y mettre. Voilà, et c'est aussi une belle manière de se faire plaisir et de nous faire plaisir et de soutenir On refait le Mac et nos équipes derrière en régie qui n'arrêtent pas en ce moment et on les salue. Voilà, avec à mes côtés en plateau cette semaine, Monsieur Christophe Degrave, qui est en duplex depuis le HQ Underside Center. Ça va bien, Christophe?
Ça va super. Pour une fois, j'espère que tu ne manques pas d'air, Olivier.
Christophe, vous allez voir, il nous a fait plein de tests, notamment en matière de jeux vidéo, a poussé très loin en matière de jeux vidéo et d'intelligence artificielle, mais je ne dévoile rien. Le grand spécialiste des tests, la crème de la crème en matière de tests de Mac, Monsieur Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier.
Salut les amis, t'as vu, j'ai la nouvelle couleur là.
La bleue Midnight.
Noir Midnight. Marque de doigt a priori, mais pas sûr. Tu vois, je ne l'ai pas lavé exprès pour te montrer.
Marque de doigt un petit peu quand même. Voilà, et on devine à peine tes nouveaux locaux. On a hâte de venir les visiter et ton nouveau studio. Et tu cherches toujours du monde, hein, je crois, Didier.
Eh oui, si vous êtes junior, tu vois, monteur, cadreur, vous cherchez une petite alternance, ça peut être intéressant de travailler avec nous. Je pense qu'il y a plein de choses cool.
Dans
et
le
puis,
sud.
On cherche aussi des rédacteurs, journalistes.
Dans le sud, en plus, au bout. Voilà.
Donc voilà, c'est les travaux encore un peu. Tu vois, là, c'est encore un peu provisoire tout ça. Mais...
Allez, on vous a préparé un petit sondage, même deux petits sondages cette semaine autour du MacBook Air M3. Apple affirme que le MacBook Air M3 est le meilleur ordinateur portable grand public pour l'intelligence artificielle. Est-ce un argument de vente selon vous? Et vous répondez non, 71,4%. Et oui, 28,6%. Voilà pour le marketing d'Apple. C'est vrai qu'on a été un peu surpris de voir se positionner. L'un des premiers arguments de vente, d'acheter le MacBook Air, c'est le meilleur ordinateur pour l'IA. Alors qu'Apple était très discret sur ce créneau-là. Regardez les réactions. Pas mal de réactions sur Twitter pour cette émission. D'Apple TV+, FR Actu, à l'heure actuelle, l'IA n'est pas un argument pour moi. Il faut juste qu'il soit assez puissant pour mes tâches quotidiennes. Je changerai peut-être d'avis à la WWDC parce qu'effectivement, tout laisse à penser que la roquette is on the launchpad, comme on dit, qu'il y aura certainement des annonces à la WWDC. Du côté de Rémi Wering, toujours très critique, mais qu'on aime beaucoup, Rémi Wering de Dark Nix Tweet. Nvidia rit depuis le haut de sa montagne, tel Chrome face à Conan. Alors, pour me faire l'avocat de l'avocat du diable, Rémi, Nvidia, c'est du côté générateur d'intelligence artificielle, pas au sens que c'est les outils comme Copilot ou Mistral qui les utilisent pour générer de l'intelligence artificielle. Là, c'est l'outil final de réception. Et c'est vrai qu'il faut avoir un processeur optimisé. A priori, Apple est plutôt bien équipé. Réaction d'Axel Folly. Salut, c'est un argument de vente pour les non-avertis. Réaction de Mano. Je pense qu'il faut au minimum 16 gigas de RAM pour pouvoir être efficace en matière d'IA. Et d'ailleurs, les PC IA, bien adaptés aux offres Copilot, devront a priori être équipés de 16 gigas de RAM au minimum. Microsoft semble être du même avis que moi, pas l'entrée de gamme d'Apple. Christophe, je ne sais pas, non, c'est différent chez Apple hein, avec le processeur. Il ne faut pas oublier qu'il y a, le... Comment ils appellent ça l'engine, comment ils appellent ça? Aide-moi, j'ai un trou. Aide-moi.
Le Neural Engine. Engine,
ouais. C'est-à-dire que la particularité du processeur d'Apple, contrairement à celui de Intel hein, ou d'AMD, c'est qu'il a un coprocesseur qui peut... Enfin, il y a un traitement numérique d'origine. Hein. Pour l'IA.
Exactement, on pourra le voir tout à l'heure. Juste pour rebondir un petit peu sur les différents tweets ou X que tu viens de nous lire.
Oui.
Effectivement, j'apprécie la référence pop culture de Conan le Barbare de la part de Rémi. Et effectivement, quand Rémi soulevait la perspective autour de NVIDIA, ben oui, c'est effectivement les GPU dont il parlait, en fait, qui sont capables de... quelque part faire tourner de l'intelligence artificielle quand on le désire, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission,
ouais.
Mais aussi la partie graphique. Et donc, je pense que c'est en ça que Rémi soulevait la concurrence juste en face de celle de Apple.
Autre réaction de la note du Périgord, c'est évident, une puce MX, c'est un CPU, GPU, NPU avec un pool mémoire partagé, là où un PC dépend de sa carte GPU avec sa petite mémoire pour faire tourner un LLM. Un Pro M3 avec 24 gigas de mémoire touche presque en token une Nvidia 3090. Comme quoi, Rémi, ce n'est pas d'être ridicule. Dans un gros PC de bureau, le M3R fera pareil. On l'a dit, donc, Apple met en avant l'intégration du Neural Engine. Hein, c'est ça, chercher le mot. Et ce, depuis 2017, sur l'iPhone, comme un accélérateur de traitement de l'IA. Et moi, ça m'a vraiment surpris lorsqu'on a eu le produit briefing, Didier, que Apple nous mette ça en avant, nous fasse des démos de copilotes, des démos de générateurs de Mistral. Ils ne préparaient pas quelque chose, mon cher Didier?
Oui, je pense qu'ils préparent un petit peu le terrain. Et puis, Laurent serait là, il dirait que l'IA, il y en a un petit peu partout dans les Mac, un peu caché aussi, et qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas. Rappelle-toi, tu vois, maintenant, moi, je le fais tout le temps, tu sais, d'aller simplement chercher des textes dans les images, genre... C'est de l'IA super basique, ça. Mais l'air de rien, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui voilà, vont rendre ton Mac beaucoup plus fluide au quotidien. Et je pense que l'IA d'Apple va être effectivement quelque chose comme ça. Moi, j'espère quand même qu'on aura effectivement des applis un peu plus haut de gamme, par contre, un peu plus direct. On a vraiment l'impression, on dira, ah oui, tiens, on peut prendre la puce M3 parce qu'on va bénéficier de telle ou telle fonctionnalité. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont absolument pas conscients de tout ça encore. Hein.
Regarde cette réaction encore de Steven Klimovic. Sérieusement, on préférait qu'il n'y ait pas de la fausse IA, mais 16 gigas de RAM et 512 gigas de SSD de base pour un prix de 1000 euros. On en y est loin, vous verrez tout à l'heure pour les prix. Bien mieux que des fonctions trop peu utiles et qui consomment de la batterie. Oh, quand même, c'est vrai qu'en termes de SSD, on préfère un petit peu mieux de mémoire. On va en débattre tout à l'heure avec Christophe et Didier. Une chose est sûre, ordi privilégié pour l'IA ou pas, le MacBook Air, pardon, demeure le best-seller d'Apple. Quelles sont les évolutions avec cette nouvelle génération, outre la puce M3, bien sûr? Quid du design, de la connectique? Faut-il privilégier un 13 ou un 15 pouces? Eh bien, on vous dit tout. Mais avant de vous dire tout, un petit clin d'œil quand même à nos sponsors cette semaine. NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, une solution économique et simple pour sécuriser votre navigation et accéder à des contenus vidéo souvent réservés à des pays étrangers, comme pouvoir regarder des contenus exclusifs de Netflix pour le continent américain. Christophe nous dira tout dans un instant, mais d'abord, jingle. MacBook Air 13 pouces ou MacBook Air version 15 pouces. On va d'abord parler du design. Au niveau du design, messieurs, du châssis, pas d'évolution apparente. Mais c'est vrai que c'est une recherche qui marche plutôt bien. Alors pourquoi changer Christophe, par exemple, si tu veux enchaîner.
Oui, bah je trouve qu'effectivement, c'est le même design que précédemment. Il y a effectivement plusieurs couleurs, plusieurs déclinaisons. Hein. Donc, on parle de l'argent, de la lumière stellaire, c'est très poétique, je trouve, du gris sidéral et minuit. Et je pense qu'on peut passer la parole à Didier qui, lui, l'a testé en mangeant des chips en plus.
Alors, c'est du test. Hein.
Alors, c'est mon collègue Jun qui a fait les tests. Mais tu vois, donc moi, j'ai les deux. Le lumière stellaire, celui-là, qui est très, très beau. Franchement, lumière stellaire, je trouve que c'est original comme coloris. C'est un petit peu, tu sais, doré. Les Chinois aiment beaucoup ces coloris-là.
Ouais, une dominante dorée, ça, hein, c'est ça. Ouais, d'accord.
Ça fait un peu MacBook Pro de luxe. Honnêtement, quand tout ça dans le train, je trouve que ça fait ordinateur un petit peu, un petit peu stylé. Et puis, il y a donc le fameux bleu minuit, alors qu'ils ont modifié légèrement. Soi-disant, ça prend un peu moins les traces de doigts. Alors, ça y est, regarde, là, j'ai à peu près l'image. Donc, ça les prend moins, mais c'est quand même effectivement une machine qui a l'air un peu tout le temps sale. Et c'est vrai que moi, je la trouve vraiment super. C'est vraiment, je trouve, la couleur que je prendrais. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être pas trop maniaque, ou alors il faut toujours avoir un chiffon dessus, tu sais, comme avec les voitures de luxe, il faut avoir un mec qui vient te le nettoyer tout le temps.
Il est bleu, mais il tient.
Ouais. Je trouve ça magnifique, quoi. C'est un objet d'art, vraiment, c'est bien fini. Le clavier est extrêmement doux au toucher. En fait, tu sais, c'est un Mac qui te procure. Je disais hier, on se faisait un petit live aussi, tu vois, et on a vraiment de l'émotion en fait quand on a cet ordinateur. Même quand on tape un article, moi j'adore le MacBook Air. Des fois, je le prends juste pour le kiff par rapport au gros MacBook Pro, tu vois, parce que j'aime bien le feeling du clavier, de pouvoir le transporter à une main comme ça. Je trouve que c'est un format qui est génial. Alors, le 15 pouces, c'est quand même beaucoup plus gros, mais c'est quand même beaucoup plus léger qu'un MacBook Pro. Et ça aussi, ça change d'avoir un grand écran dans un châssis de MacBook Air. Tu vois, au début, j'étais là, bon, OK, ils le vendent très cher, tout ça. Mais l'air de rien, je pense que dans un sac, quand tu le balades tous les jours, que tu dois vraiment travailler, que tu as besoin de faire du traitement d'image, par exemple, des choses comme ça, des photographes et tout, c'est quand même un autre ordinateur. Tu peux même faire du montage vidéo là-dessus. C'est un mini MacBook Pro. Et regarde la finesse de ce truc, quoi.
Et en lumière stellaire, il est tellement beau.
Magnifique.
Alors, côté design, tu l'as dit, Didier, on retrouve celui introduit il y a 2 ans avec le MacBook Air, hein, qui reprend le même profil asymétrique, ou symétrique plutôt, que les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Donc, on arrête le profil en goutte d'eau historique hein, des MacBook Air introduits par Steve Jobs il y a des années déjà. Mais ça reste des machines, vraiment, moi, ça m'a frappé, moi qui viens effectivement du MacBook Pro plus classique, ça reste des machines super, super fines, hein, Didier. C'est vraiment l'extrême finesse.
Elles sont fines. Et elles sont légères. En fait, c'est ça qui est incroyable. Et en fait, elles sont plus fines qu'avant. C'est-à-dire que oui, tu n'as pas le côté goutte d'eau à l'avant. Mais tu sais, dans un sac, quand tu rentrais l'autre Mac, alors au début, ça rentrait bien. Puis après, c'était assez épais. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus comme les MacBook Pro, mais c'est extrêmement fin. Et d'ailleurs, quand tu vois les ports USB-C, moi, je pense que c'est vraiment le truc le plus impressionnant. C'est qu'en fait, c'est la finesse du port USB-C. Là-dessus, je ne suis même pas sûr que tu pourrais mettre un HDMI tellement c'est fin.
Ouais.
Tu vois, là, avec le MagSafe.
1,13 cm pour le 13 pouces d'épaisseur seulement. 1,15 cm pour le 15, ouais, ça fait juste pour mettre... C'est sûr que tu peux pas mettre d'Ethernet, l'HDMI, ça va être difficile. Hein.
Par contre, là, sur un 15 pouces, je pense qu'ils auraient pu te mettre 2-3 ports de plus. Ça leur aurait coûté beaucoup plus cher, tu vois.
Ouais, mais
là, ça fait un peu vide comme machine.
Là, on peut penser que ce soit du marketing pour donner un avantage au MacBook Pro. Mais
c'est sûr.
On a prévu un chapitre MacBook Air ou MacBook Pro. Là, on fait MacBook Air 13 ou 15. Après, on va faire MacBook Air M2 face au M3. Donc, on avait essayé d'être assez précis sur les choix et les alternatives à vous donner. Tu voulais dire quelque chose, Didier ?
Non,
j'assiste. En tout cas,
mignon. Ce design, il y a des gens qui nous demandaient aussi est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas attendre le M4 avec le nouveau design ? Non, mais ça, ce design, je pense qu'il va faire chez Apple minimum 5-6 ans, si ce n'est pas plus, tu vois. Donc, c'est un design qui va être intemporel, je pense.
Donc, en tout cas, Apple a insisté encore une fois lors du produit briefing cette semaine sur le fait que le MacBook Air M3 est composé désormais de matériaux recyclés à 50%. Donc, pour eux, c'est une première. Donc, ils vont être encore un peu plus loin dans matière de recyclage et de protection, entre guillemets, de l'environnement. Et tu le disais, on parlait à la connectique à l'instant, pas d'évolution, pas de différence, Christophe, entre la version 13 et la version 15. Pas d'évolution entre la version précédente côté connectique. Hein.
Effectivement, donc on a 2 ports Thunderbolt 3 USB 4, comme le montrait Didier à l'instant, et une prise jack, vous vous souvenez, la fameuse prise jack que Apple retirait de ses produits fut un temps, donc qui sert toujours effectivement pour quelques personnes. Et puis après, bon, on a le port de recharge MagSafe, qui est quand même bien pratique parce que ça évite d'utiliser l'un des ports USB-C sur la machine. Donc quelque part, effectivement, on peut même considérer qu'on a presque 3 ports aujourd'hui.
Alors, est-ce que disposer que 2 ports, on pourrait penser que la machine est bridée, pour les usages que vous avez, est-ce que ça vous semble suffisant au quotidien ? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ?
Bah là, tu vois, par exemple, je suis en train de te parler à partir d'un MacBook Pro. J'aurais pas pu utiliser le MacBook Air parce que tous les ports du MacBook Pro sont presque pris. Il y en a un pour la lumière, il y en a un pour le smartphone, il y en a un pour recharger le Mac.
Le smartphone te sert de caméra, etc. Et puis si tu as un micro, il faut forcément... Bon, après, tu peux utiliser un dock.
Oui, bien sûr, tu peux utiliser un dock, effectivement.
Didier.
D'ailleurs, j'en ai un qui est branché, tu vois. Mais malgré tout, deux ports, c'est quand même peu, quoi. C'est peu, ça dépend de ton usage. Si ton usage quotidien, c'est d'aller voir tes emails et d'aller sur Safari pour naviguer le web, bah, ce n'est pas un souci. Ou pour faire de l'intelligence artificielle, visiblement.
Est-ce que toi, tu considères que c'est une machine un peu bridée, même pour faire des besoins un peu pro, ou au contraire, moi, je trouve que c'est une machine plutôt polyvalente avec ses deux ports, avec un moniteur externe, en multipliant les ports, ou un petit port USB-C, ça fait l'affaire, hein?
Bah, le truc, tu vois, c'est qu'effectivement, tu peux connecter des écrans externes. On pourra peut-être en parler par la suite, mais on peut connecter jusqu'à deux écrans sur le MacBook Air.
C'est
Mais
nouveau,
du coup,
ça,
en
hein?
fait,
C'était pas le cas pour le
ouais,
M2, hein?
c'est ça, exactement. Mais du coup, tu dois éteindre l'écran s'éteint, en fait, quand tu as
Capot
l'écran
fermé.
interne au MacBook Air
Capot fermé.
s'éteint quand tu as deux écrans externes. Donc c'est chouette, mais en même temps, bof, ça aurait été très cool de pouvoir disposer de trois écrans en même temps. Mais donc il est très sympa, il est très sympa en termes de processeur, on le verra en termes de GPU, on verra aussi, on parlera un peu de jeux vidéo, et puis de toutes les belles mesures qui ont été faites par Didier d'un point de vue synthétique. Donc il est polyvalent à tous ces niveaux-là, mais je trouve qu'au niveau connecteur, deux USB-C, c'est un peu limite quand même. De mon point de vue à moi, dès que tu veux mettre un SSD, ben tu prends un des ports et puis voilà quoi.
Didier, est-ce que tu es prêt à abandonner ton MacBook Pro? On va en parler tout à l'heure, mais vas-y, révèle-toi.
Alors, par contre, moi, quand même, ce qui est intéressant, une réflexion un petit peu plus globale, c'est que le MacBook Air, quand il est sorti, c'était vraiment une machine à écrire, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas puissant, même l'autonomie n'était pas folle. Et c'est
C'est
vrai que
vrai.
ça touchait vraiment un public d'ultra mobilité qui, tu vois, à l'époque, c'était un peu le début du digital nomadisme. Et en fait, maintenant, tu t'aperçois que petit à petit, il grignote effectivement des parts de marché au MacBook Pro parce qu'en fait, moi j'ai des gens autour de moi, ils font des montages pro sur des MacBook Air. Tu as des photographes qui utilisent ces MacBook Air. En fait, maintenant, les gens qui ont besoin du MacBook Pro, comme dit Christophe, c'est des gens qui ont besoin de connecter plein de trucs en même temps, qui ont besoin d'avoir plein d'écrans externes, qui ont besoin d'une très grosse puissance aussi ponctuellement. Et en fait, du coup, c'est vrai que cette machine, elle devient limitante pour plein de raisons, parce que tu sais, tu peux pas monter à plus de 2 Tera de SSD, 24 Go de RAM, les ports, effectivement. Alors là, tu vois, c'est quand même tout bête ce qu'on fait là. On fait juste un live. Bah, tu as quand même un micro, j'ai ma caméra, et j'ai mis un SSD, et j'ai rempli les ports de mon MacBook Pro. Donc mon MacBook Pro est plein là. Donc sur le MacBook Air, j'aurais même pas pu faire le live avec ça. Et surtout, les docks que tu as, tu me dis oui, il y a des docks, mais les docks qui multiplient tes ports USB-C, c'est encore pas très courant. Et surtout, des fois, tu perds pas mal de débit. Et par exemple, si
C'est
tu veux un
ça.
dock Thunderbolt, ça vaut quand même 300 €.
Ouais,
Donc 300 € sur
c'est
une
cher.
machine comme ça, qui est entre guillemets grand public, et en plus, tu ne te balades pas avec, hein, ça, il y a des alimes externes et tout, donc c'est assez compliqué. Donc je pense que la cible d'Apple reste à peu près toujours la même. Mais en réalité, tu touches beaucoup plus de monde. Et effectivement, maintenant, tu as bien 30% des gens qui sont un peu frustrés. Mais la plupart des gens qui achètent cet ordinateur, se trouve, ils vont jamais utiliser les deux ports en même temps. Donc, tu vois, c'est difficile aujourd'hui de te dire, ouais, bon, voilà, il faudrait qu'ils mettent plus de ports. Moi, je pense que ça leur coûterait pas cher parce que là, tu as deux contrôleurs
Oui.
Thunderbolt. Tu pourrais mettre quatre prises avec les deux contrôleurs. Ce serait juste vraiment des prises ou
Oui.
des rallonges, quoi. Et
Et
c'est
encore
tout.
une fois, c'est pour une manière de créer un différentiel un peu artificiel avec les MacBook Pro, mais tu
Oui, mais sur
branches.
MacBook Pro, tu as le même problème. Moi,
Oui.
j'aimerais bien avoir un ou deux ports de plus, même
Oui,
si ce n'est pas un contrôleur à chaque fois, tu
ça va
vois.
peut-être venir, mais encore une fois, tu greffes un petit disque SSD pour les monteurs vidéo, et puis c'est largement
Ah ouais.
suffisant, hein, mais après, il ne faut pas être trop exigeant non plus. Alors, s'il fallait faire un choix entre le 13 et le 15, quelle différence vous noteriez, quel conseil vous donneriez? Évidemment, l'encombrement, le poids et l'autonomie ne sont pas. L'autonomie, on va aller voir que c'est à peu près la même chose, ou c'est très proche, mais c'est plutôt l'encombrement et le poids qui varient du 13 au 15, hein, bien sûr.
Exactement, l'encombrement varie forcément un petit peu le poids. Maintenant, c'est toujours à nouveau, c'est toujours une question d'usage, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, le MacBook Air a le processeur pour pouvoir faire du montage, comme le disait Didier. Et dans ce cas-là, ben, c'est quand même cool d'avoir un écran 15 pouces. Moi, personnellement, si je dois en choisir un, d'après mes usages, ben, je vais plutôt aller vers vraiment une machine qui soit la plus facile à transporter, parce que le MacBook Air, je le vois vraiment comme un MacBook, tu vois, d'options à côté du MacBook Pro,
Mais regarde,
parce que tu vas
regarde le
pouvoir te
15,
balader avec. Ben ouais,
regarde le
regarde la
15.
différence.
Oui, mais
C'est...
il est tellement fin. Franchement, moi qui viens du Mac
Il
Pro
est super
16
fin.
pouces, j'ai l'impression de balader avec une brique. Et j'ai pris le 15 en main, je fais oups. Et franchement, pour mes usages, c'est largement suffisant le MacBook Air 15. Moi, je ne reviendrai pas au 13, c'est clair.
Non, tu resterais au 15?
Ouais. Didier?
C'est
Non, mais
surtout que
le.
L'ordinateur, maintenant, c'est quand même un produit que tu utilises toute la journée aussi.
Bah ouais.
Et je vois de plus en plus de gens. Alors, moi, je râle souvent quand je vais dans les agences et tout, et que je vois que les mecs, ils sont comme ça sur leurs 13 pouces, ils ont le dos cassé en deux. Je dis, c'est pas possible de laisser les gens travailler sur des machines comme ça.
Alors, voilà, il faut un moniteur externe.
200 balles. Donc, bon, c'est très important.
Plus maintenant, hein, aujourd'hui, que tout le monde a un Apple Vision Pro. Hein.
Va se calmer, monsieur Degrave.
Le 15, il te permet quand même, quand tu es comme moi et que tu travailles beaucoup dans les hôtels, les trains, les avions, tu es au bureau, etc., tu ne peux pas toujours te brancher sur un écran externe, tu es chez un client, j'en sais rien. Le 15, tu peux vraiment travailler. C'est-à-dire que c'est agréable. Tu mets, tes Twitter, tes machins de tous les côtés. En fait, le vrai problème, ici, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le 15, et on parlera à la fin, mais quand même, c'est un problème de prix. C'est-à-dire que Apple, je trouve que ce n'est pas justifié le tarif qu'ils demandent pour un 15 pouces par rapport au PC, où c'est un peu la norme. Je trouve que le prix du 13 aujourd'hui devrait être le prix du 15 et que le 13 devrait être moins cher. Bon, on reparlera des prix, mais quand même, moi je pense que c'est un truc beaucoup plus bloquant que l'encombrement finalement. Les gens font leur choix par rapport au prix, ce qui est dommage, tu vois.
Et tu vois, tout ce dont on parle, les ports, le prix, l'écran, etc., tout ça fait partie de cette stratégie que Tim Cook met en place en échelle ou en escalier,
peu importe.
Où effectivement, tu te dis, un port supplémentaire, c'est quand même bien. Donc, du coup, je passe sur le MacBook Pro. Ou bien alors, j'ai le 13 pouces, mais quand même, le 15, il est cool. Allez, je passe sur le 15. Mais le 15, je peux pas ajouter 4 Tera. Bah, du coup, je passe sur le MacBook Pro, etc. etc. C'est très fort, en fait, parce qu'il te manque toujours le truc que tu voudrais.
Alors, la principale différence, on le disait, c'est l'encombrement et le poids. Il y a à peu près 300 grammes d'écart entre les deux modèles. C'est quand même pas négligeable, 300 grammes. Et par rapport, moi qui viens du 16 pouces qui fait plus de 2 kg, passer à 1,5 kg sur le 15 pouces qui est là, ou 1,3 kg pour celui-là qui est devant moi en 13 pouces, 1,24 kg exactement pour le 13, 1,51 kg pour le 15 pouces, c'est déjà énorme. La différence, vous l'avez vu lorsque Didier l'a ouvert, là, c'est l'encombrement. Le 15 pouces était un peu plus profond de 2 cm. Hein. 23,76 cm de profondeur pour le 15 contre 21,5 pour le 13. Il est surtout plus large, vous l'avez vu, mais je trouve que c'est plus confortable, notamment pour les enceintes. 34,04 cm sur le 15 et 30,41. Il y a 4 cm d'écart finalement en fait entre le 15 et le 13. Pour ça que moi je privilégierais plutôt le 13. Le problème c'est le prix, tu l'as dit. L'idéal ce serait de prendre un 15 M2, mais le 15 M2, devinez quoi ? Il est sorti du catalogue. Eh oui.
Alors tu le trouves quand même, Olivier, parce qu'il y a encore des stocks sur Amazon et compagnie.
Ouais, donc profitez-en.
On relaye ça régulièrement.
Profitez-en. C'est clair.
Ouais. Mais ce que disait Christophe est très juste. Et en fait, Tim Cook, tu as l'impression que pour chaque tranche de 100$, tu as quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'à chaque fois, en fait, tu peux aller upgrader pour 100$ de plus. Tu te dis, tiens, si je prenais ça en plus, ça crée de la frustration. Mais du coup, quand Apple sort des nouveaux produits, je ne sais plus, je crois que c'était Gassé ou... Non, ou comment il s'appelle ?
Bertrand Serlet.
Oui, Bertrand Serlet qui disait effectivement que c'était... Enfin, quand Steve Jobs sortait une machine, ça enterrait la précédente.
C'est ça.
Alors, quand Tim Cook sort une machine, ça rend la précédente acceptable en termes de tarifs. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. C'est que finalement, ben, ce qu'il faut acheter, c'est le 15 pouces M2.
Il faut acheter la génération précédente, voilà. Au registre de l'autonomie, est-ce que vous notez des différences si on croit les données constructeurs, c'est assez proche, Didier ou Christophe.
Oui, ben en fait aujourd'hui on est vraiment sur à nouveau en fait si on prend une vue hélicoptère de l'ensemble de la gamme des MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, on est quand même sur quelque chose en fait d'hyper raisonnable et qui a carrément ou quasiment pas de concurrence en termes d'autonomie. Quand on va vers du Dell ou d'autres ordinateurs du même style. Ici, ils annoncent 18 heures en lecture vidéo sur l'application Apple TV. Et franchement, j'ai tendance à les croire. Alors par contre, ce qui est assez marrant, c'est que c'est 18 heures pour le 13 pouces et 18 heures pour le 15 pouces, alors même que pourtant les batteries sont légèrement différentes. Mais bon, d'un côté, on a un écran 13 pouces et de l'autre côté, on a un écran 15 pouces. Donc, ce qui doit forcément avoir un impact sur la longévité de la batterie.
Effectivement, 52,6 Wh pour le 13, 66,5 pour le 15 pouces. Une réaction sur Twitter de Mano. Alors, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Hein. Je sais beaucoup d'utilisateurs, comme quoi peut-être un jour Apple l'entendra. En entrée de gamme, il faudra toujours se suffire de 256 et 8 Go de RAM. Je l'ai encore rappelé à Apple cette semaine et ils disent mais 8 Go, c'est largement suffisant dans le monde Apple, c'est différent que le monde PC. Qu'est-ce que je vous dise ? Aujourd'hui, c'est quand même peu. 16 Go et 512, ce serait un minimum ? Non. Ben, voilà, vous avez la réponse. En tout cas, une chose est sûre, ce sont bien deux ordinateurs portables, ultra portables. Le confort de lecture en plus pour le 15 pouces grâce à sa grande dalle pour faciliter notamment le multifenêtrage. Alors, monsieur, quel serait votre choix? Moi, j'ai choisi le 15, sachant que le 13 est facturé 1 299 € et le 15, 300 € de plus, 1 599. Toujours en 8, 256 Go de RAM. La seule différence pour le 15 pouces, c'est qu'il a 2 cœurs en plus GPU, 10 cœurs contre 8, et que le 15, une fois l'écran, ouais, je crois que le 13 aussi, hein, une fois l'écran ouvert, c'est que le 15, Didier, ou c'est aussi le 13 qui gère les deux écrans? Je me pose la question d'un coup.
Non, les deux.
Alors, vous choisiriez lequel, vous, le 15 est pour vous?
Bah, moi, je me suis fait une config que j'aurais pris pour moi, c'est-à-dire avec 1 Tera et puis au moins 1 Tera, on va dire, et 16 Go de RAM. Et plutôt le 15, parce que voilà, pour ce que je fais, c'est quand même plus adapté. Je suis au prix d'un MacBook Pro 14 pouces, quoi. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué entre ce que tu veux et ton budget aujourd'hui. Et je pense que les gens râlent parce qu'il y a 8 gigas, 256 gigas, mais ils râlent pas pour ça. Ils râlent parce que Apple te vend pas les 8 gigas supplémentaires au prix de 8 gigas.
Juste prix.
Te vend ça au prix de, je sais pas, 60 gigas sur PC, quoi. Et en fait, le problème, c'est que tu as une config de base qui est chère et qui n'est pas bien équipée. Et du coup, tu es obligé de faire le compromis. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bon, allez, le 15, j'oublie. Donc, je me mets sur le 13. Et puis, le 13, je veux lui mettre 1 Tera et 16 Go de RAM. J'arrive à plus de, alors, je ne sais plus combien t'es, 2000 et quelques, 2002, 2003.
Sur le prix du 14.
MacBook Pro. Et finalement, à ce prix-là, tu dis, ah, allez, je prends un M2 parce que pour 500 balles de moins, là, il y a des offres en ce moment. Et tu arrives comme ça à faire du compromis. Donc, c'est un peu triste parce qu'en fait, tu ne veux plus l'ordinateur que tu veux l'ordinateur que tu peux te payer avec Apple. Et c'est un peu dommage. Et moi, je conclurai là-dessus.
Tu rajoutes quelque chose, Christophe? Tu restes sur le 13 toujours?
Oui, moi, je resterai sur le 13 vraiment pour avoir cette mobilité et cet encombrement, cette mobilité maximum et cet encombrement minimum. Donc, j'irai plutôt vers le 13. Et du coup, j'ai la sensation plutôt en fait que ce genre d'ordinateur, tu vois, un MacBook Air 13, je le vois un petit peu comme un espèce de netbook pour ceux qui se souviennent de ce que c'était un netbook.
Non.
Et du coup, ben, je le laisserai en 8 Go et peut-être avec un disque un petit peu plus costaud en termes d'espace, mais ouais. Je le laisserai sur sa config de base parce que juste pour revenir, tu vois, sur la partie RAM, effectivement, 8 Go de mémoire du côté Apple, c'est pas la même chose avec le système d'exploitation, etc. L'Apple Silicon, c'est pas du tout la même chose que sur un PC.
C'est pas pour autant 16 Go.
C'est vraiment important
non plus
de préciser.
C'est un juste milieu à trouver. C'est pas non plus 16 Go aussi, tu vois. 8 ne valent pas 16. Mais c'est vrai que dans le monde Apple,
franchement, essaye de faire du montage avec un PC avec 16 Go et essaye de faire du montage sur un MacBook Air avec 8 Go et tu verras que tu pourras faire sensiblement la même chose, tu vois.
Ouais. Bon. Allez, voilà pour le flacon. Quid de l'ivresse de la puissance de la puce M3. On en parle après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine, ou presque, du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et comme chaque semaine, c'est Didier Poulekeni qui nous liste tout ça. Quel est ton hit parade, mon cher Didier?
Eh oui, Olivier. Alors, je voulais commencer par parler d'Intel. Je sais qu'on s'écarte un petit peu d'Apple cette semaine, mais au moment où on fait l'émission, là, ils ont lancé une puce à 6,2 GHz.
Non, de
apparemment,
Dieu.
Quand on voit du steak, donc il faudra la confronter au M3 Max ou voir au M3 Ultra. Si
c'est quoi la console électrique? C'est ça qui m'intéresse.
Alors, on est autour de 230 watts.
Ah oui, quand même.
Mais en fait, tu sais que oui, c'est beaucoup. Mais au final, dans une tour, sur Mac, moi, j'aimerais bien avoir un M3 qui tourne à 230 watts et qui
atomise. Mais pas là-dedans, on est d'accord. Pas dans le MacBook Air. 230 watts, tu oublies. Hein. Il faut une machine.
Effectivement.
Non,
mais
comme
nous,
ça.
C'est vrai qu'on est très contents pour les portables. Mais c'est vrai que sur les fixes, on se dit Apple pourrait être un peu plus généreux. Et là, le Mac Pro, il n'est pas du tout généreux de ce point de vue. Tu vois.
C'est vrai.
Donc voilà, mais effectivement, Intel continue un peu son délire de surconsommation. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir aussi des perfs qui sont pas mal. Donc, mon PC évolue quand même aussi. C'était juste pour faire un petit rappel.
Ouais, et Nvidia l'aurait bien passé devant en termes de revenus et en termes de cotation boursière. C'est assez impressionnant. Deuxième info, rumeur.
Alors ça, c'est une info. Apple propose des AirPods reconditionnés. Alors, je voulais profiter de cette info pour vous demander, est-ce que vous achèteriez des AirPods qui ont déjà été mis dans d'autres oreilles?
Moyen. Bon, j'imagine qu'ils changent les embouts quand même, au moins pour les AirPods Pro.
Les produits reconditionnés par Apple, c'est quand même très, très propre en règle générale. Hein. Donc, tu as presque l'impression que c'est du neuf, en vrai.
En vrai, je pense que c'est même un canal de distribution de produits neufs. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que les AirPods, tu dis, s'il y a peut-être un produit que j'achèterais pas trop d'occasion, c'est les AirPods. Mais comme j'en vois plein sur le bon coin, je me dis, bon, tu vois, pourquoi pas. Autant les acheter chez Apple.
Rumeur ou info suivante ?
Alors non, ça c'est une info a priori. Tu sais que donc il y a le DMA, là, on en a parlé
la semaine dernière.
Justement, voilà, embête un petit peu Apple, mais du coup forcément Spotify en profite, Epic Games en profite aussi. Mais Apple traîne un peu des pieds. Là, par exemple, Spotify, ils ont fait une mise à jour de leur appli avec, tu sais, le petit lien pour aller s'abonner directement sur leur site, comme l'Europe maintenant les autorise. Ce qu'on aimerait bien nous aussi, tu vois, par exemple pour Mac Forever, pour RLM et tout. Et donc maintenant, on a le droit de faire ça, sauf que Apple met du temps apparemment à leur valider leur application. Voilà, donc bon.
Tranquille. Tranquille. Allez voir l'émission qu'on a fait la semaine dernière avec Yann, le chien notamment, vous verrez, qui nous raconte toutes les coulisses des difficultés de développeurs, notamment au début, au lancement de l'App Store, une émission passionnante. Vous verrez, c'est en ligne depuis la semaine dernière, ne la ratez pas. On enchaîne toujours avec une rumeur ou une rumeur ? Une info ?
Non,
info ?
C'est une info, c'est Apple qui achète Darwin.ai.
Ah, voilà. Intelligence artificielle is back.
Oui, mais en fait, ils en achètent tout le temps. Hein. C'est juste que de temps en temps, il y en a qui sortent un peu plus que d'autres.
Voilà, ils font quoi, ces gens-là, Darwin.ai ? L'évolution, c'est quoi ? On sait ou on ne sait pas ?
Ouais, aujourd'hui, c'est pas très, très clair exactement, mais en tout cas, ce que va intégrer Apple dans... Moi, je pense qu'ils récupèrent surtout les ingénieurs. En fait.
Ouais.
Je pense pas qu'ils récupèrent des technos là-dedans.
Ils achètent du savoir-faire.
Parce que, ouais, et c'est exactement ça. Et aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est les ingénieurs. C'est pour ça que dans le projet Apple Car, quand il te dit on va réintégrer, c'est que je pense que c'est le vrai problème, c'est de recruter. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la Silicon Valley, ils me disent le vrai problème, c'est de recruter les gens. Donc oui, peut-être qu'ils vont, ils vont reprendre ça effectivement à leur compte. Mais moi, je suis persuadé que c'est vraiment pour réintégrer des équipes. Et en fait, je ne suis même pas sûr qu'on ait des si grosses annonces que ça à la WWDC. Je pense qu'on aura des belles promesses, peut-être pas forcément des annonces.
Oh.
Parce que j'ai l'impression quand même que, tu vois, s'ils avaient pu nous faire un Siri ou quelque chose d'un petit peu plus évolué depuis quelques années, ils l'auraient quand même fait. Donc, j'ai l'impression que c'est encore en chamboulement chez Apple.
C'est trop frais, trop frais. Et dernière info, rumeur, Didier.
Oui, alors, il y a un brevet qui a été déposé pour faire une sorte de touch bar, tu sais, sur le côté de l'iPhone.
Non.
Voilà. En fait, c'est amusant blague. Ce truc, hein, parce que tu as l'impression que l'iPhone, maintenant, ils ont un peu fait le tour, donc ils essayent de te rajouter le bouton en plus, puis maintenant, on va essayer de te mettre une petite touch bar. Moi, j'ai peur quand même qu'en rendant... Tu sais, par exemple, pour moi, c'était le seul téléphone où, avec juste un clic, tu le rendais en silencieux. Je trouvais ça super pratique. Bon, maintenant, tout le monde quasiment est en silencieux tout le temps, donc ça ne pose plus tellement de problèmes. Mais je n'aurais pas envie que ça redevienne compliqué comme certains Android, là où tu cherches tes boutons pour le volume, pour les mettre en veille, etc. Mais bon, c'est qu'un dépôt de brevet, donc on va voir. L'idée, c'était d'afficher une petite barre, hein, avec des fonctionnalités sur le côté. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ton téléphone à chaque fois. Enfin, le vrai problème de la touch bar.
Merci beaucoup, Didier. Le Buzzomed, c'est chaque semaine dont on fait le Mac, dès le vendredi soir, et aussi... dans une pastille indépendante tous les dimanches, également sur YouTube et sur Mac Forever. Merci Didier. Retour au MacBook Air. La puce M3 affiche-t-elle un gain de puissance significatif ? Justifie-t-elle d'investir ou faut-il plutôt choisir un MacBook Air M2 toujours au catalogue ? Nos réponses. Allez, avant de s'attaquer aux tests et aux performances, un mot au sujet de notre sponsor, Christophe.
Oui, NordVPN, effectivement, qui est quasiment notre VPN, notre solution de VPN favorite. Et parce que, tout simplement, c'est hyper facile à employer. On peut l'installer sur l'ensemble de ces machines et on va pouvoir disposer surtout de deux choses. La première, c'est le fait de chiffrer toutes nos communications entre tout simplement notre machine et puis le reste du réseau, l'Internet. Et ça, c'est quand même drôlement sympa quand on voit le nombre de pirates qui traînent, entre autres, par exemple, dans les Starbucks et les autres cafés divers et variés. Donc, c'est important qu'on est à l'hôtel, etc., d'avoir un bon VPN. Et c'est le cas ici. Et puis, la seconde chose aussi, c'est que c'est très facile avec l'interface de NordVPN de sélectionner le bon pays pour tout simplement aller chercher du contenu qui est exclusif à ce pays en particulier. Alors, je pense évidemment à des solutions de streaming diverses et variées qu'on ne va pas citer ici, mais c'est quand même bien sympa de pouvoir parfois regarder un film qui n'est pas disponible dans la région où on habite.
Ouais, moi, sur l'Apple TV, je me régale en ce moment parce que NordVPN fonctionne aussi bien sur Apple TV que sur iPhone et sur iPad, avec le même abonnement. Évidemment, il ne faut pas se réabonner pour chaque device. Sachez que NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission là, juste en dessous, ou encore en cliquant sur le QR code 4 mois. Ça fait plaisir et c'est le prix même pas d'un petit café par mois. Alors, messieurs, MacBook Air M2 ou MacBook Air M3, au registre des performances, l'écart se creuse-t-il entre le MacBook Air M2 et la version M3? Qu'est-ce qu'ont donné les premiers tests? Évidemment, on commence toujours, Didier, par l'incontournable Geekbench et le test brut, CPU, je dirais.
Oui, oui, et puis d'ailleurs, les constructeurs les calent aussi pas mal pour ces... Pour ces logiciels, en fait, c'est assez amusant quand tu regardes les courbes, c'est que c'est un étagement presque régulier, tu vois, depuis le M1 jusqu'au M3. En plus, on a mis là un petit MacBook Pro M3 Pro, donc, histoire de voir un peu la différence que tu aurais si tu passais sur la gamme supérieure. En fait, ça n'a pas l'air, tu vois, d'être un étagement extrêmement important, mais en fait, d'une génération sur l'autre, d'une année sur l'autre, c'est quand même pas mal de gagner comme ça 10, 15, 20% supplémentaires. Alors, ça dépend un petit peu ce que tu fais, ça dépend du nombre de cœurs que tu utilises. Et tu vois, par exemple, en multicœur, on passe quand même de 8009 à, en gros, presque 11000. Donc, c'est quand même assez énorme. C'est pas des choses qu'on avait, par exemple, chez Intel. Tu sais, il fallait attendre 3 ans pour avoir du 5% à l'époque.
Ouais, c'était compliqué, donc, effectivement.
Voilà, mais ce qui fait que si tu pars du M1 aujourd'hui, le M3, tu auras quand même un beau saut de performance. Mais surtout, je sais pas si tu as vu, là, le MacBook Air 2020 avec un Core i3, il se fait atomiser. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'était une machine à côté, tu pouvais rien faire. C'est pour ça, quand on dit qu'avec ça, maintenant, tu peux faire du montage vidéo et tout, c'est pas des conneries, quoi. Il a vraiment une puissance d'ordinateur. De MacBook Pro d'il y a seulement quelques années, en fait.
Donc ça, c'était des tests performance pure, je dirais, de calcul mathématique pur sur de CPU. Quid du GPU avec Geekbench, Didier?
Alors, le GPU, ça progresse bien parce qu'en fait, ça progresse même un peu plus finalement que le CPU chez Apple. En fait, ils préfèrent mettre des cœurs GPU pour tout un tas de raisons, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un monde de GPU que de CPU pour, voilà, tu veux faire du traitement parallèle, tout ce qui est un petit peu 3D, effet, tu vois, dans le montage vidéo aussi, ça utilise beaucoup le GPU, par exemple. Et là, c'est vrai qu'on gagne quand même pas mal. Alors, attention, tu as vu que le modèle d'entrée de gamme, il n'a pas seulement pas beaucoup de mémoire et pas beaucoup de SSD, mais il a aussi un GPU qui est amputé de 2 cœurs. Donc, ouais, tu auras un petit peu moins de progrès. Mais si tu regardes l'écart entre un MacBook Air M2 à 10 cœurs et un MacBook Air M3 à 10 cœurs, il est assez impressionnant quand même. Tu gagnes quasiment, tu as vu, 6000 points sur une référence autour de 30 000. Donc, c'est absolument énorme. Évidemment, on est quand même loin des MacBook Pro, c'est-à-dire pour tout ce qui est jeu, on va en parler après. Voilà, ce n'est pas des machines faites pour ça, mais on est bien loin des machines Intel, par exemple. Même si aujourd'hui, ils font des progrès. Hein. Là, on n'a plus d'équivalent maintenant sur Mac, mais c'est vrai que Intel a quand même fait des progrès depuis. Donc là, c'est le test métal. En plus, c'est ultra optimisé. Donc, assez satisfaisant. Mais encore une fois, tu vois, il faut regarder d'où tu viens, quoi. Si tu viens du M1, tu doubles presque les perfs cette année. Si tu viens d'une machine Intel, tu les multiplies par 3 ou 4. Donc, c'est pas rien, quoi.
Oui, Christophe nous a préparé plein de tests sur des jeux, notamment des jeux triple A. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire du son, par exemple, avec Logic? Ça donne quoi, Didier?
Et ça, c'est incroyable parce que, tu vois, une machine comme ça, là, un MacBook Air M3, ça te fait tourner quasiment 100 pistes de Logic. Et c'est, nous, c'est un test qu'on fait, on met des effets dessus. Enfin, vous pouvez aller voir un petit peu le détail sur le site. C'est June qui fait ça. C'est un professionnel de la musique, donc il connaît bien ce domaine. Et pour lui, clairement, aujourd'hui, tu peux monter un album avec un MacBook Air. Hein. On a vraiment des ordinateurs qui te vendent comme le petit ordinateur un peu d'entrée de gamme des étudiants, mais pas du tout. C'est un ordinateur, tu peux faire du Logic avec des plugins. June me disait hier qu'avec ça, la plupart de ce que tu écoutes, il n'y a pas 100 pistes avec des plugins. C'est-à-dire qu'en fait, avec la moitié de ça, déjà, tu peux faire un album aujourd'hui. C'est pour ça que les studios d'ailleurs d'enregistrement se meurent. C'est parce que ces machines sont devenues extrêmement puissantes. Donc évidemment, par rapport à un MacBook Pro qui a beaucoup plus de cœur et tout, on est à 200 pistes. Mais par exemple, un MacBook Pro 14 pouces, il n'est pas beaucoup plus loin sur la partie CPU. Donc en fait, le MacBook Air, c'est pour ça que ça, avec un petit peu de RAM, alors il faut de la RAM quand même, hein, quand tu fais de l'audio, parce qu'il y a les plugins et tout, ça bouffe quand même pas mal. Mais je dirais que c'est le seul prérequis. Et tu peux vraiment t'amuser. Hein. Le GarageBand, tout ça, c'est génial.
Il y a un super mini encombrement. Hein. C'est ça qui est remarquable. Mmh. En gros, mais c'est ça si on prend un peu de recul et on revient 6, 7, 8 ans en arrière, on a les performances d'un Mac Pro, là, mine de rien, les amis. Hein. C'est ça qui est fou. Mais bon, passons. Un test que tu affectionnes également, c'est celui de JFX Bench. Mais là, c'est pour tester Metal que tu l'utilises, c'est ça? Le langage graphique d'Apple?
Oui, en fait, c'est intéressant ce test parce que il fait vraiment du calcul 3D comme des jeux vidéo, mais par contre, il n'utilise pas forcément toutes les dernières techno parce qu'il n'est pas bien mis à jour. On n'a pas tant de logiciels de bench sur Mac, les jeux, on va voir aussi que c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que tu vois que les résultats dans la vie réelle ne sont pas forcément ce qu'on a sur les bench ou ce que nous promet Apple, parce que bah voilà, si tu as des jeux qui utilisent des vieilles techno, bah finalement, tu ne vas pas gagner grand-chose, on va le voir un petit peu après aussi. Ce qui est un peu dommage, parce que si tu arrives à en profiter vraiment, il y a le ray tracing qui arrive aussi cette année, là, tu peux vraiment booster les perfs. Mais c'est vrai que le Mac souffre aussi de ça, de programmes qui héritent de tout un tas de techno qui ne sont pas forcément mis à jour très rapidement. Et là, tu vois que les progrès, ils sont... Alors, ça dépend un peu des tests, parce que c'est assez variable, mais tu peux être quelques pourcents à autour de 20-25%, comme ce qu'on t'a promis aussi. Donc, c'est quand même un bon reflet de l'augmentation de performance. Encore une fois, si tu veux des performances graphiques, il n'y a pas photo. Hein, même un petit MacBook Pro 14 pouces est nettement au-dessus, tu peux doubler les perfs. Alors que, par exemple, là, bon, c'est un M3 Pro, mais on aurait mis un M2 Pro, c'est quasiment aussi rapide qu'un M3 Pro. Donc, tu vois, pour le budget, des fois, tu te dis, si je veux vraiment faire de la 3D, le MacBook Air... Dès que je mets un certain prix, il vaut peut-être mieux passer sur un M2 Pro, par exemple.
On va en parler tout à l'heure. Quelques réactions sur le canal, le chat YouTube réservé aux membres VIP du club ORLM. Réaction de Sébastien Marcucci qui nous dit « June a une bonne réflexion sur les machines de base qu'on va trouver dans la grande distribution. Ça, c'est une autre chose. 300 euros de plus c'est caché par le... Oui, je ne peux pas le lire. Pour le 15, voilà, ça fait cher, je trouve. Oui, mais c'est encore une fois, c'est tout le talent d'Apple pour bien étager les ordi et nous cantonner au 13 ou nous forcer à monter. Réaction de Stéphane Becquet qui nous dit malheureusement, le prix sont le plus gros reproche à faire à Apple. Et c'est vrai, je trouve. Réaction sur Twitter, il est partout. Avant la réaction sur Twitter, un autre test que tu affectionnes, Didier, c'est Cinebench, toujours pour le GPU.
Oui, et surtout, Cinebench, là, en fait, il a une version Ray Tracing. Donc, c'est la grosse nouveauté. Alors, le Ray Tracing, c'est en fait un système qui te permet d'avoir des images 3D qui sont beaucoup plus réalistes. C'est assez incroyable, hein, les vidéos que tu tapes Ray Tracing sur YouTube, tu vas voir, c'est assez fou. Mais ça existe depuis des années. Moi, quand je faisais mes études et tout, ça existait déjà. Sauf qu'avant, ça demandait des performances absolument incroyables. Et du coup, tu n'arrivais pas à le faire en temps réel. Donc maintenant, on a des puces qui sont capables de faire ça. Alors, ça fait longtemps que sur PC, les processeurs graphiques savent faire ça, mais c'est très gourmand. Donc souvent, les gens ne l'activent pas parce que ça demande vraiment beaucoup de puissance. Et on préfère avoir du FPS, des images par seconde, que d'avoir des belles images finalement. Mais là, tu as quand même un test qui montre que le M3, c'est devenu le maître du ray tracing parce qu'il le fait en hardware. Avant, c'était purement software. Et là, tu vois, on passe de 3000 à 13000. Et surtout, on a des scores quand même de RTX 3080. Donc, sur un MacBook Pro, là, tu vois. Et sur le MacBook Air, donc on passe de 1500 à 3000. Donc là, c'est pas mal aussi au niveau gain. Donc, ce qui est quand même assez fou de ces petites bécanes portables, d'arriver à avoir ces résultats-là. Encore une fois, c'est plus de la démo, parce qu'en vrai, le ray tracing, à part pour toi, des étudiants qui font des projets ou des choses comme ça, tu vas jamais faire tourner du ray tracing vraiment là-dessus. C'est pas une machine pour faire ça. Ouais. Quoi. Mais c'est intéressant de voir qu'ils l'ont dans la génération M3 et qu'après, c'est décliné effectivement sur tous les segments de gamme. Mais du coup, ça veut dire que quand même, sur ton petit MacBook Air, bah, suivant les applications que tu as, si tu as des jeux qui sont un peu optimisés, tu peux quand même goûter à ça sans que ça soit des images ultra saccadées. Quoi.
Ouais, encore une réaction de Sébastien Marcucci sur Twitter. Une puissance pareille dans un ordi sans ventilateur. Coucou l'iPad Pro, effectivement, c'est quand même fou. L'entrée de gamme en M2, c'est cool. On n'a plus le design goutte d'eau cher à Johnny Hive dans la gamme portable. Je préfère maintenant, et moi aussi. Place au test. Après ces tests, je ne dirais pas théoriques, mais on a vu que Logic, ce n'est pas des tests théoriques, mais quand même, place au test réel et grandeur nature. Christophe, tu t'es intéressé aux performances en matière de jeux vidéo et tu as pris également Homo Apple au registre de l'IA. Qu'est-ce que ça donne? Donne-nous les résultats. Tu veux commencer par quoi? Par les jeux vidéo?
Oui, par les jeux vidéo, ça pourrait être très bien. Et effectivement, pour rebondir par rapport à ce que disait Didier, certes, ça n'est pas la machine ultime des gamers, mais par contre, tu as un MacBook Air M3 dans ton sac, tu as envie de te faire une petite partie d'un jeu récent, ben, tu peux très bien le faire aujourd'hui, ce qui n'était vraiment pas possible avant. Mm-hmm. Tu le sors de ton sac, tu ouvres ton écran, tu ouvres ton portable, tu as ton joypad et puis tu commences à jouer en fait, sur des jeux qui sont hyper récents. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, les tests qui ont été effectués ici l'ont été sur un MacBook Air 15 pouces, M3, 16 Go de RAM. Donc, c'est déjà une chouette machine.
C'est en pas l'entrée Sonoma de gamme. 14... Hein.
Pardon ?
C'est pas l'entrée de gamme.
Non, c'est pas l'entrée de gamme.
10 cœurs GPU.
Effectivement, 10 cœurs, c'est ça, oui. Tout à fait. En macOS Sonoma 14.3. Donc, comme ça, tout le monde est bien au courant. Et on a essayé plusieurs jeux, vraiment. On a essayé Lies of par exemple, hein, donc Lies of P qui est quand même un jeu qui est considéré étant un jeu pour les hardcore gamers, quoi. Donc vraiment les joueurs qui vont en demander un maximum à leur machine et puis où la difficulté est quand même très très importante. Et là, Lies of P qui est sorti quasiment en même temps que sa sortie sur PC, donc ça c'est plutôt sympa, va réaliser en full HD un nombre de frames par seconde, un nombre d'images par seconde de plus de 70 images par seconde en moyenne, donc c'est plutôt sympa.
C'est remarquable quand même pour HD. Une machine comme celle-là. Hein.
Voilà, on est en full HD effectivement, mais par contre, à l'intérieur, il y a quand même toutes les options qui sont mises à fond, etc. Donc, Pardon, Olivier ?
Et sans ventilo.
Et sans ventilo, effectivement. En 2048 fois 1280, on voit que ça descend à 40 frames par seconde en moyenne, ce qui est quand même pas trop mal non plus. Hein. On peut jouer avec ce nombre d'images par seconde, même si certains voient la différence. Moi, je trouve ça quand même super agréable. Et puis, on peut après monter à la résolution maximum de l'écran qui est 2880 fois 1800. Et là, effectivement, par contre, on va être à 30 frames par seconde, un peu plus de 30 frames par seconde, 30 images par seconde, ce qui est peut-être un petit peu moins confortable, mais toujours supérieur à ce qu'on trouve au cinéma, par exemple. Donc, pourquoi pas jouer à Lies of P, c'était bien agréable sur ce MacBook Air en tous les cas. Après, je vous ai testé aussi un autre jeu qui est un jeu bien connu qui s'appelle Resident Evil 4 de Capcom. Donc, c'est la nouvelle production de Capcom. Hein. C'est pas l'ancien jeu, c'est le
triple
jeu revisité. Voilà, le jeu revisité. Triple Et puis là, on voit également que sur Resident Evil 4, en Full HD, on est à quasiment 50 frames par seconde, 50 images par seconde. Donc, c'est plutôt sympa. En 2048 fois 1280, on arrive à plutôt 36 images par seconde, 35-36 images par seconde en moyenne. Et puis, en résolution maximale, on arrive à un peu plus de 25 images par seconde, donc juste au-dessus de ce qu'on trouve dans la plupart des cinémas. Ensuite, on va parler d'un jeu qu'on n'avait pas encore essayé, et pour cause, parce qu'il est très très récent. Il s'appelle Stray, c'est un jeu qui est aussi sorti sur PlayStation 5, par exemple, et qui maintenant est disponible sous Mac. Moi, c'est juste incroyable, hein. Pouvoir dire qu'un jeu est sorti quasiment en même temps sur PlayStation 5 et sur Mac, c'est un rêve aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que de ne pas être éveillé. Et pourtant, si, et donc Stray tourne en 1710 x 1069 en 60 frames par seconde quasiment. En Full HD, il va plutôt être juste en dessous des 45 images par seconde. Et puis résolution maximum, là, on est plutôt vers les 20 images par seconde, ce qui est du coup pas suffisamment confortable pour jouer. Mais malgré tout, il fait tourner le jeu, c'est certain. Je vous ai mis un petit comparatif avec le M2, donc équivalent. Hein, donc c'est vraiment des machines équivalentes. Et le M2, pour le coup, en 1710 fois 1069, là où le M3 vient performer à 60 images par seconde, il est plutôt juste au-dessus des 45 images par seconde. Donc, on voit quand même une différence. Par contre, quand on arrive en Full HD, curieusement, plus on augmente la résolution, et plus on voit que la distance entre le M2 et le M3 s'effondre. En tout cas, c'est moi ce que j'ai constaté.
Ouais. Curieux, effectivement.
C'est ce que j'ai constaté. Donc voilà, le M2 est quand même une chouette machine. Ouais. Et puis pour finir, parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, chers messieurs, il y a aussi l'intelligence artificielle, c'est vrai.
Alors tu veux prendre au mot Apple sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as testé comme moteur d'intelligence artificielle ?
Alors ici, c'est un moteur qui est un moteur de machine learning. Hein, donc c'est de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est appliquée en fait au plus grand nombre pour un maximum de fonctionnalités. Et pour le coup, j'ai utilisé Geekbench comme notre ami Didier, mais cette fois-ci dans sa version ML, donc machine learning. Et on voit en fait que Geekbench permet de tester trois choses. De faire fonctionner de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle ici des inférences, sur le processeur, le CPU. Ensuite, sur le processeur graphique, ou la partie graphique, devrais-je dire, qui est le GPU. Et puis après, sur le Neural Engine, qui est vraiment la partie du processeur de chez Apple qui est dédiée à l'intelligence artificielle. Et vous voyez à l'écran qu'effectivement, bah, j'ai mis deux autres ordinateurs en comparaison. J'ai mis le M1 Pro, juste pour le petit clin d'œil quand même, le M2 équivalent au M3 et le M3 effectivement dont on vient de parler à l'instant. Et on voit que quand même malgré tout, même si c'est sur le CPU, ben on voit que on a un score qui est 17% plus important que par rapport au M2. Bon, malgré tout, en fait, le M1 Pro défonce un peu tout le monde. Ça, c'est encore autre chose. Donc, ça veut dire que quand même deux générations en arrière, les pros continuent à être quand même de bons processeurs.
C'est des bons investissements en général. Hein.
Exact. Sur la partie graphique, là, par contre, on voit que le M1 Pro se fait battre par le M3. Donc,
ça, c'est faux.
Ben, je reviens vraiment sur ce que Didier disait tout à l'heure. Au niveau GPU, ils ont mis la dose. Hein. Mm. On est vraiment sur une super machine. Et donc, effectivement, là, on voit qu'il y a un score moins important pour le M1 Pro et encore moins important sur le M2. D'ailleurs, le M3 est 34% plus véloce sur GPU que le M2. Là, les amis, quand même, il y a un gouffre. Hein.
Oui.
Et ensuite... Oui.
Non, mais ensuite... On comprend pourquoi Apple se positionne sur ce créneau-là, parce qu'ils ont certainement eu les mêmes chiffres que toi, mais encore faut-il qu'Apple nous propose un moteur d'IA à un moment donné. Là, on utilise des moteurs d'IA qui, dans Word, alors ils ont fait la démo sur Word, mais dans PowerPoint avec Copilot, mais je leur ai dit, mais vous êtes courant, vous avez Page, Keynote, enfin voilà, des choses qui sont propres à Apple, et on va voir la WWDC.
Oui, ben on en parlait avec Bertrand Serlet, qui est quand même... l'un des plus grands experts de la planète en fait en termes de systèmes d'exploitation, et ce qu'il nous disait, c'est que l'avenir des systèmes d'exploitation, c'est l'intelligence artificielle, toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans les systèmes d'exploitation, et Apple va pas être en retard. Vous allez voir en fait qu'ils vont débarquer avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leur système d'exploitation, c'est à peu près sûr.
Moi, je l'ai trouvé quand même Serlet, parce qu'il a quand même tous ses copains chez Apple, hein, faut pas se leurrer. Et quand tu lui as posé la question, quand même, il avait l'air de dire qu'ils étaient en retard, quoi. Et c'est marrant parce qu'il
avait l'air un peu
pénible. Il a lâché ça comme ça, quand même. Hein.
Il avait...
Tout le monde le dit, hein. C'est sûr et certain qu'Apple a un petit retard, en tout cas d'un point de vue marketing.
Non,
ils en parlent
fait,
peut-être moins que les autres.
Apple nous avait habitués toujours à avoir un coup d'avance sur le reste du monde de ses concurrents. C'est-à-dire pas forcément anticiper les tendances, ce n'est pas l'enjeu. Ils n'ont pas sorti le premier smartphone ou le premier casque Apple Vision Pro, hein, le premier casque réalité mixte ou la première tablette. Mais de prendre le virage quand c'était le bon moment. Et là, tout le monde, pas qu'Apple, et Google aussi s'est dépassé, hein, mais ils n'ont pas su le vent venir. Voilà. Et apparemment, c'est un peu grandé en interne à Cupertino. Alors, c'est marrant parce qu'on en a parlé encore lors du briefing cette semaine, et le responsable que je salue et que j'embrasse d'ailleurs, parce que je le connais depuis quelques années maintenant, faisait un peu la gueule en disant que tu y vas un peu fort, nous on prend le virage que maintenant parce que c'est le bon moment, parce qu'on va trop vite, regarde ce qui se passe en ce moment, on peut exploiter des images, faire des fakes, du deepfake, etc. Je dis ouais, non mais bien sûr, mais tu as entendu ce qu'a dit Bertrand Serlet et Bertrand Serlet, c'est pas n'importe qui, c'est important d'avoir des éléments implémentés dans le système d'exploitation, au cœur du système d'exploitation, et ça ne s'improvise pas. D'un autre côté, ce qui est rassurant, et je conclue juste, pardon Christophe,
non, je t'en prie.
C'est quand on voit ce qu'arrive à faire Mistral en quelques mois seulement, et avec des moyens, croyez-moi, bien moins importants qu'Apple, on se dit qu'Apple, avec les moyens qu'ils ont, s'ils ont réussi à réunir une Dream Team, je ne suis pas inquiet quant à leur capacité effectivement à rattraper ce retard. Oui, Christophe.
C'est certain, on peut dire que Mistral a le vent en poupe. Alors, par contre, on va en arriver à la partie la plus importante du graphisme que l'on a devant les yeux. Et on voit que pour le Neural Engine, quelque part, en fait, même le M1 Pro se fait concurrencer par le M3. Et que le M2 se fait prendre 14% de différence en fait, par rapport au M3. Donc malgré tout, en termes d'intelligence artificielle, ils sont prêts au niveau matériel, hein, les gars. Ils sont prêts, c'est là, c'est latent. Il suffit que le logiciel arrive et ça va arriver. Vous inquiétez pas, ça va arriver tout doucement.
Ce sera un vrai argument de vente qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui. Réaction sur Twitter de Mano. Apparemment, les performances du SSD de l'entrée de gamme 256 Go sont redevenues excellentes. car le stockage ne repose plus sur une seule puce comme le modèle M2, mais sur deux puces de 128 gigs. Ouf, dit-il, vous confirmez, vous avez fait tous les deux le test. Christophe, continue, c'est toi qui avais la parole.
Je suis désolé, Olivier, en fait, j'ai manqué.
Le SSD, je suis désolé. Performance du SSD.
Le SSD, d'accord, ok. Alors, du côté du SSD, effectivement, si on peut m'afficher le slide, voilà. On voit ici que j'ai testé grâce à nos amis de Blackmagic qui sortent une application qui s'appelle Disk Speed Test, de tester la lecture et l'écriture sur le disque interne à l'ordinateur. Et on voit qu'effectivement, c'est x2. Moi, j'ai fait le test sur l'ancien MacBook Air M2 et sur le nouveau MacBook Air M3. Et effectivement, le MacBook Air M2 en fait, se prend une gifle monumentale de la part du M3. Et on voit que le M3 atteint plus de 3000 mégabytes par seconde. Les gars, en lecture et en écriture, c'est un truc de malade.
Super. Effectivement, on voit vraiment la différence. Tu confirmes, tu disais tu as fait les mêmes tests de ton côté.
Oui, en fait, après, sur ces ordinateurs, c'est sûr que d'avoir même un gigaoctet seconde, ça joue pas beaucoup. Par contre, ça peut jouer quand même sur l'entrée de gamme où tu n'as pas beaucoup de mémoire. L'ordinateur va swapper, il va utiliser le SSD pour stocker un peu de mémoire quand il n'a pas assez de RAM. Et du coup, en fait, d'avoir un disque plus rapide, ça peut quand même rendre ton ordinateur plus réactif, l'air de rien. Donc, ça compte aussi. Moi, la question que je me pose, c'est qui arrive encore à vendre des puces mémoire de 128 gigas à Apple. C'est fabuleux, parce que je pense que c'est la dernière du marché. Non, il n'y a pas longtemps, je suis allé me balader dans les magasins, comme ça, chose que je ne fais pas si souvent en électronique. Et je regardais les PC, combien ils avaient de SSD. Il n'y en avait aucun qui avait 256. Hein. Ça n'existe plus, quoi. C'est même truc pas cher, il a 512, parce que ça ne vaut plus rien. Un Tera, ça vaut 70 euros maintenant. Encore dans le marché de gros, ça doit valoir 50 balles. C'est un délire, cette histoire. Enfin, OK, le disque est plus rapide, mais d'avoir ces puces-là est un délire.
Voilà, en tout cas, là, on a une vraie matérialisation d'une vraie différence en termes de performance entre le MacBook Air M2 et M3, oui.
Et 256 gigas sur Mac ne valent pas 512 gigas.
On est d'accord sur ce point.
Alors là, par contre, c'est la vérité. Hein. Et franchement, en fait, même aujourd'hui, je valide complètement ce que tu dis, Didier. Et même aujourd'hui, en fait, avec 1 Tera, on cherche son espace disque. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais avec les fichiers qui prennent de plus en plus d'espace, les photos, les vidéos 4K, etc., c'est de la folie.
Moi, je fais du montage et j'ai 8 Tera là, sur la machine parce que mes projets, ils font 300 gigas, 400 gigas. J'aime bien avoir 4-5 en même temps parce que je bosse sur plusieurs en même temps. J'aime pas me balader avec des SSD tout le temps, même si je suis obligé. Et je stocke la photo, du mail. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre avec 256 gigas ou avec 500 gigas. Et c'est terrible parce que.
À part faire du mail,
je vais te le dire, Didier.
C'est démentiel. Il faut du cloud, quoi. Ils te vendent du cloud, finalement.
Du cloud, mais aussi, tu sais que chez Underside, en fait, on s'occupe de l'informatique de pas mal d'entreprises. Globalement, la question qui nous revient le plus souvent, c'est celle-là. Hein. C'est j'ai mon disque qui est plein. Est-ce que vous pouvez m'aider en fait pour libérer de l'espace disque hein.
Ça te fait du boulot en fait. Tu es ravi qu'il limite à 256 gigas, mon salaud.
Changent l'ordinateur parce qu'ils ont ils sont aperçus qu'ils n'ont pas pris assez. Qu'ils ont des machines qui marcheraient encore s'ils avaient du SSD. Et en plus, comme chez Apple, quand même, tu ne peux pas les modifier. Alors que sur PC, tu peux. Et honnêtement, ils pourraient quasiment le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est collé sur la puce avec. Tu vois, ils le mettent sur la carte mère, mais. Franchement, mettre un petit connecteur M2 maintenant, les disques sont grands comme ça, même les PlayStation, tout le monde a ça maintenant.
Allez, messieurs, différence.
Après, tu vois, un disque dur USB, en fait, que tu viens coller sur la coque de ton Mac avec un petit scotch, en fait, finalement, ça marche bien aussi.
Ouais, c'est une idée pour un accessoiriste. Autre différence qui se fait jour entre le MacBook Air M2 et le M3, c'est la puce Wi-Fi qui évolue. On passe du Wi-Fi 6 sur le M2 au Wi-Fi 6E sur le M3. On aurait pu espérer le Wi-Fi 7, il va falloir encore attendre une génération. On voit une vraie différence, Christophe ?
Oui, on voit une énorme différence. Au studio, on a une des connexions du studio est en gigabit dans les deux sens, donc en montée et en descente.
Ça te fait rêver, hein, toi, en Belgique. Hein.
Oui, effectivement. Mais là, on vient juste d'avoir une connexion gigabit dans les deux sens chez Underside. On a dû attendre quelques années avant de rattraper effectivement Paris. Par contre, j'ai entendu dire que Didier avait du 8 giga dans les deux sens. Donc ça, c'est encore autre chose. Plus sérieusement, en fait, lors des tests du Wi-Fi, globalement, tu as le gigabit dans les deux sens également, quoi, tu vois. Sur le MacBook Air, tu as en descente, en fait, tu as plus de 928 mégabits par seconde en 6E et en montée plus du, enfin quasiment du 800 mégabits par seconde. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, en fait, pour un MacBook Air.
Ouais. On a oublié de le dire sur le un point intéressant que tu disais concernant l'espace disque. J'ai oublié de faire la le quand tu disais j'ai mon disque qui est plein à 256 gigas, comment je fais pour vider mon disque? Mais moi j'ai la solution et c'est notre sponsor, il s'appelle Clean My Mac, bien sûr. Découvrez Clean My Mac, l'utilitaire de référence pour faire le ménage sur le Mac sans effort. Clean My Mac vous permet de libérer des gigas d'espace, d'accélérer votre Mac, de désinstaller des applications, mais également d'assurer votre confidentialité en ligne tout en vous protégeant des programmes malveillants. Et pour les fans de Refait le Mac, Clean My Mac vous propose une réduction de 10% en cliquant sur le lien nouvelle fois dans la description de la vidéo ou via ce QR code qui s'affiche à l'écran en tapant le code promo ORLM10 également. Ça marche très bien. Voilà une manière simple de révider son disque dur et vers de l'espace disque. Oui, Christophe.
À fond, non, mais je ne peux que valider parce que nous, on l'utilise même en entreprise. On pousse vraiment à l'utilisation de Clean My Mac. C'est un super utilitaire avec une super interface graphique. Et puis, tu as même des options qui te permettent d'aller chercher dans tes emails et de retirer en fait tous les
pièces jointes,
les attachments, les pièces jointes de tes emails. Ça te fait gagner un max d'espace disque.
Et le truc qui vraiment, moi, je trouve génial pour ceux qui font de la vidéo, qui utilisent beaucoup les solutions d'Adobe, qui devraient évoluer de ce côté-là depuis des années, on leur dit. C'est qu'ils vident les caches. Voilà, pour...
Il y en a aussi sous Final Cut. Hein.
Oui, aussi sur Final Cut, c'est vrai. Et là, on, par exemple, sur une de nos machines, on a découvert qu'elle avait combien de 700 gigas de cache. Un truc de fou. Imaginez la taille du disque dur qu'il faut pour héberger 700 gigas de cache. C'est juste n'importe quoi. On a parlé du Wi-Fi, on a parlé du SSD. Quid de l'autonomie? Il n'y a pas vraiment de différence ce côté-là entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3. 18 heures d'autonomie en mode de lecture de vidéo sur Apple TV, c'est l'annonce d'Apple et c'est à peu près ce qu'on a constaté. En revanche, une vraie différence de prix, 1 199 € pour le M2 contre 1 299 €, 100 euros d'écart. Hein, c'est pas énorme. Tous les deux ont 8 cœurs CPU et tous les deux ont 8 cœurs GPU. Même si tous les deux, on peut monter la mémoire jusqu'à 512 gigas. Mais il y a en gros 100 euros d'écart. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si vous voulez un M2, prenez plutôt un 15, si vous trouvez une fin de série. Par contre, vu 100 euros d'écart, prenez plutôt un M3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils sont forts chez Apple.
Il y a quand même un petit paramètre, c'est que tu arrives à trouver le M2 beaucoup moins cher
que chez Apple.
Sur Amazon. Et en fait, Apple écoule quand même ses machines avec des tarifs. Parce qu'il y a le tarif officiel Apple Store, mais il ne faut plus acheter sur l'Apple Store maintenant. Il vaut mieux acheter sur Amazon, sur les revendeurs, parce qu'ils ont souvent des promos et qui sont beaucoup plus intéressantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux arriver à avoir des M2 avec 16 gigas et 512 au prix du M3 en 256 16 gigas. Donc, si tu as un budget pour t'acheter le M3 un peu maxé, fais-le. Mais si tu as un budget un peu limité, plutôt que d'avoir le M3 et dire « Ah cool, je vais avoir le Wi-Fi 6E et 2-3 petits trucs, mais à la fin, je suis obligé de me brider sur la RAM, me brider sur le SSD, ma machine va avoir une moins bonne durée de vie. Bah, » Finalement, il vaut mieux prendre celle de la génération d'avant qui n'est quand même pas si mal.
Il est fort, Tim Cook. Hein, il est très, très fort en matière marketing.
Il est fort et c'est agaçant parce que les machines sont bonnes, tu vois. Vraiment, tu auras envie de mettre 10. Et tu ne peux pas à cause du prix, c'est quand même fou. Alors qu'il y a quand même, on a connu des périodes chez Apple où le MacBook Air était une bonne affaire sur tous les plans. C'était un 10 sur 10. Là, ce n'est pas un 10 à cause du prix.
Oui, il y a des modèles de MacBook Air Intel qui ont duré 5, 6, 7, 8 ans. C'est l'objet d'un chapitre
les
qui arrive.
800 euros, je me rappelle. Hein.
On va en parler dans un instant de la durée de la machine. Hein. Alors, faut-il après le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3, on a plutôt répondu à la question, quel modèle choisir entre un MacBook Air M3 ou un MacBook Pro M3? On y répond après le jingle. On a vu dans tes tests, Didier, que les écarts entre le MacBook Pro M3 et le MacBook Air M3 ne sont pas si énormes en termes de CPU. Ça se creuse un peu plus en GPU. Là, on va plus s'intéresser au MacBook Pro M3, pas le M3 Pro. Hein, c'est la nouveauté de l'an passé qui est apparue en fin d'année. Hein. Il n'y avait pas de M3 tout court. Il n'y avait que des versions Pro. On a comparé donc le M3 13 avec le MacBook Pro 14. On l'a dit en préambule, la vraie valeur ajoutée de ces machines, c'est plutôt la connectique, Didier, brièvement.
Oui, déjà, tu as, tu, effectivement, tu, en fait, c'est quand même une machine professionnelle. Donc, tu as un écran mini LED qui est beaucoup plus lumineux. Tu peux faire des traitements HDR, par exemple, pour quand tu fais du montage vidéo.
Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Hein. Ça n'a pas d'écran
Tu filmes avec ton iPhone en HDR aujourd'hui. Ouais. Avec tous les iPhones quasiment depuis 2-3 ans.
Mini LED et puis ProMotion aussi sur l'écran.
Alors oui, je dirais que ça, c'est moins grave forcément, mais parce que le HDR, vraiment, ça saute aux yeux quand tu l'as, c'est une vraie différence aussi. Mais effectivement, tu as le ProMotion, tu as plus d'images par seconde. Là aussi, je pense qu'ils pourraient potentiellement le mettre sur un MacBook Air, mais bon, il faut des dalles des fois un petit peu spéciales. Mais bon, sur PC, ils commencent à avoir aussi pas mal quand même de 90 Hz et tout, ça se généralise quand même un petit peu. Après, c'est sûr que la différence, c'est plus dans les usages, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les benches. Tu as quand même des processeurs qui sont plus rapides, surtout sur la partie GPU.
C'est vrai.
Donc, si tu vas par exemple développer des petits jeux pour iPhone, tu vois, il y a les développeurs qui me disent « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Est-ce qu'un Air, ça suffit ?» Ouais, ça dépend jusqu'où tu vas. Même si tu fais des applications pour iPad, afficher un iPad full screen maintenant avec toutes les routines derrière, ça te bouffe quand même pas mal de GPU. Donc effectivement, faut toujours arriver à adapter ça avec ses besoins. C'est vrai que c'est aujourd'hui, t'es vraiment on le disait, le MacBook Air vient grignoter la part des pros, et le pro maintenant, finalement, n'a plus forcément un processeur de machine pro. Et Apple, du coup, crée ces espèces d'hybrides. En fait, la vraie interrogation, elle va être sur le tarif. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain prix, ton MacBook Air boosté, il va valoir le prix, finalement, d'un MacBook Pro, et qui, de base, est un petit peu mieux équipé en RAM, en SSD. Et finalement, tu vas trouver cet équilibre en faisant monter le prix de ton MacBook Air. Moi, je dirais que la différence, elle se fait aussi, surtout là, aujourd'hui, une fois que tu as compris ce que tu avais besoin en termes de performance, en termes de taille d'écran, en termes de stockage.
Tu disais, Didier, la vraie différence, donc, c'est une fois non seulement l'écran ProMotion d'un côté jusqu'à 120 Hz, le traitement du HDR, la connectique, hein, 4 ports, 4 vrais ports Thunderbolt 4 et non pas Thunderbolt 3 du côté d'Apple, où il n'y en a que deux. On a de l'HDMI, on a la carte SD, Compact Flash, avec quelques années qu'elle n'est plus là. Par contre, au niveau de l'encombrement, moi, j'ai un peu de mal avec le MacBook Pro.
Oui, il est épais. Hein.
Il est épais, et il est surtout beaucoup plus lourd. 1,4 kg pour le 13, 1,55 pour le 14. C'est une vraie différence, 300 grammes. En gros, pour le poids du 15, tu as en gros du 14, tu as un MacBook Air 15 avec un écran plus grand. Et 300 grammes d'écart, c'est quand même important. Alors, si vous passez au 16 pouces...
Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que quand même, il y a un ventilateur dans les MacBook Pro.
C'est vrai.
Et c'est vrai que si tu fais du jeu, ok, pourquoi pas, mais nous, on arrive quand même à le pousser un peu. Et dans le test, là, on a un test détaillé sur le site pour aller voir. On a fait des tests où effectivement on voit les performances baisser, ce qui est normal quand tu n'as pas de ventilateur, mais il faut quand même pousser pas mal la machine, mais on y arrive quand même. Et effectivement, ton MacBook Pro, lui, c'est totalement linéaire, c'est-à-dire que tes fréquences, elles ne baissent jamais, alors qu'elles vont baisser avec le MacBook Air. Donc suivant les traitements que tu fais, si tu fais un export par exemple, suivant le type d'export, ça peut effectivement te rallonger énormément. J'ai des amis, ils font des exports 4K, tu vois, ça va mettre une heure sur le MacBook Air quand ça va mettre un quart d'heure sur un MacBook Pro. Donc, ça dépend tellement de l'usage, tout ça, alors que la plupart des gens ne verront peut-être pas de différence s'ils font de la bureautique.
Alors, je vous rappelle,
juste une chose, Olivier. C'est vrai que je pensais un peu la même chose que ce que disait Didier. Et je me suis permis un test au studio sur le MacBook Air M3 qu'on a eu en prêt.
Oui.
Et on a fait tourner pendant genre 2 heures un jeu vidéo plein écran en mode, donc en game mode on, donc c'est vraiment le mode jeu vidéo de chez Apple, et le nombre de frames par seconde, le nombre d'images par seconde n'a pas bougé d'un fifrelin. Et en plus de ça, la machine semblait être absolument fraîche. Donc,
s'il fait chaud dans la régie.
Même, d'un point de vue dissipation thermique, c'est quand même pas mal. Quoi.
Ouais. Alors, je rappelle le poids. 1,24 kg pour le MacBook Air 13 pouces contre 1,55 kg, donc 310 grammes de plus pour le MacBook Pro 14 pouces M3. Et si vous passez au 16 pouces, c'est 2,15 kg. Moi, c'est quand même assez compliqué à transporter. Pour moi, le 16 pouces, c'est intransportable. Ce qu'on n'a pas dit sur l'affichage, qui est quand même important, c'est le niveau de résolution, hein, qui est quand même supérieur, plus fin évidemment de par le ProMotion, mais également plus fin en matière d'affichage. On monte jusqu'à 3024 par 1964 contre 2880 par 1864 sur le 15 ou le 13 MacBook Air. Et puis il est plus lumineux, sans surprise, le MacBook Pro également, ce qui est aussi important quand on fait du montage vidéo, puisque jusqu'à 1000 nits en HDR, alors on est limité à 500 nits pour le MacBook Air. L'autonomie, il y a une petite différence de près de 4 heures, 22 heures d'un côté pour le MacBook Pro 14 pouces contre 18 heures pour le MacBook Air M3, mais ça reste quand même vraiment des éléments déterminants. Tu le disais, la différence, c'est plutôt au niveau du prix. Hein. Si tu prends un MacBook Pro, et ben, c'est autour des 1 999 €. Alors évidemment, nous, on l'a pas comparé à l'entrée de gamme parce que c'est pas, il faut moins avoir 8 à 10 cœurs GPU. Donc en fait, l'équivalent en 13 pouces, il faudrait monter à 1 529 €. Et puis on serait tenté de dire, bah, prenons plutôt un 15. Et là, on monte à 1 829. On est à peu près à 170 € du MacBook. On voit que du MacBook Pro, on voit vraiment que l'étalonnage est vraiment bien fait. Du côté d'Apple en thème marketing, ce qu'il faut faire, c'est être vraiment vigilant sur les promos, hein, Didier, et sauter sur l'occasion. Là, on peut penser que le MacBook Pro, il va avoir quelques. Ils vont essayer de relancer un petit peu, peut-être qu'on va trouver un petit peu moins cher. C'est certainement le moment, surtout que les ventes sont un petit peu atones des Macs en ce moment. Vont-ils, ou Apple, ou le MacBook Air, va-t-il relancer les ventes? On pose la question. Est-ce que cette nouvelle génération équipée d'une puce M3 du MacBook Air va relancer les ventes car elles sont un petit peu atones? Pourquoi sont-elles un petit peu atones? C'est vrai que le taux de renouvellement du Mac est peut-être plus important que sur le monde PC. Et c'est la question qu'on vous a posée cette semaine dans notre second sondage. Quel est votre rythme de renouvellement du Mac portable? 2 ans ou moins, seulement 3%, 3,1%. 3 ans, seulement 7,9%. 4 ans, 20,1%. Voilà un chiffre intéressant. Et 5 ans ou plus, 69%. Le Mac, ça coûte plus cher, mais ça dure plus longtemps, Didier.
Oui, non, mais c'est clairement l'argument aussi pour ça qu'Apple te les vend si cher, c'est que finalement ça décote pas. Et c'est vrai que c'est assez important. Et d'ailleurs, les options que tu vas prendre vont aussi faire que tu pourras le revendre un peu plus facilement. Des fois, tu dis tiens, je vais mettre 300 balles, c'est quand même beaucoup pour monter un peu mon SSD, mais finalement, tu peux les récupérer à la revente parce que dans 5 ans, 256 gigas, peut-être que personne n'en voudra. Peut-être que Apple continuera de les vendre, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un des gros points forts du Mac, de l'iPhone et des produits Apple en général.
Christophe, on comprend dès lors pourquoi les ventes d'Apple ont du mal à redécoller, parce que beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises également se sont équipés pendant le confinement et qu'il va falloir attendre 2, 3, 4, voire 5 ans à partir de 2020, donc c'est-à-dire l'année prochaine, pour que vraiment le renouvellement soit vraiment sensible et effectif. Hein.
Exactement. Donc, comme tu le disais, pendant tout cet arrêt autour du fameux virus, on s'est équipé et suréquipé à la maison et au travail, etc., etc., pour avoir ce télétravail. Et aujourd'hui, on a besoin de moins souvent changer nos machines parce que justement, elles sont très récentes. Et on le voit également en fait en entreprise, hein, les entreprises qui ont du Mac. Elles vont plutôt vers les 6 ans, hein, tu vois, pour changer leur machine. Et très franchement, moi qui suis un geek, oui, effectivement, on en teste souvent des nouveaux, mais mon ordinateur perso à moi, aujourd'hui, c'est encore un MacBook M1 Pro, tu vois, pour la vie de tous les jours. Donc, c'est quand même des ordinateurs avec lesquels tu vas rester quelques années.
Et la malheureusement, machine qui a un peu plus de 2 ans, aujourd'hui. C'est ça, elle a 2 ans, cette machine.
Ma machine a 2 ans, oui. Ma machine a 2 ans et je pense que je vais la renouveler l'année prochaine. Et pourtant, c'est mon métier, tu vois.
Une année de plus, je pense.
Ce qui est assez étonnant, Olivier, c'est que quand Apple lance des Macs, là, on le voit dans les ventes, ça ne relance absolument pas les ventes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet de lancement. Il y a un effet ponctuel pour les gens qui attendaient un petit peu, mais c'est plus du tout aussi impactant que quand le G5 sortait, le G4 sortait. Enfin, tu te rappelles, c'était vraiment, ça enterrait la génération d'avant. Tu passais carrément un gap et ça appelait beaucoup de vendeurs. Aujourd'hui, c'est comme les iPhones, tu achètes un Mac quand on a besoin. En général, tu prends la version d'avant et on n'a plus du tout cet effet levier comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si tu me dis quel est le Mac le plus ouf que tu as dans la gamme, je te dirais, je ne sais pas trop. Je dirais, il n'existe peut-être pas. C'est peut-être le Mac de l'an dernier, finalement. On est vraiment passé dans une stratégie très, très différente. Et sur les ventes, c'est pour ça que les ventes de Mac, on va dire, stagnent un peu. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu agacé parce que je trouve que c'est vraiment des très bonnes machines. Et je trouve que Tim Cook pourrait vraiment envahir le marché s'il le voulait vraiment. Et qu'aujourd'hui, il essaye vraiment de maximiser les profits. Et que finalement, sur les volumes, Oui, mais quelque part, avoir plus de volume, ça te donnerait aussi quand même un paquet de bénéfices. Mais là, le Mac, ça reste quand même, c'est quelque chose chez Apple qui est toujours autour de 10% de part de marché mondial, même s'ils font beaucoup de bénéfices. Et c'est un peu dommage parce que, tu vois, les étudiants, tout ça, on en voit plein, et ils n'ont pas de quoi forcément se payer un Mac ou alors ils ont des vieux MacBook Air. Et c'est un peu triste, quoi.
On est d'accord. Deux réactions sur Twitter. Regardez, de Laurent Stoski, mon rythme de renouvellement dépend des besoins de mes enfants. Je leur offre mon Mac et on en rachète un. Au final, chaque machine a une sérieuse durée de vie, même s'il m'est coûteux d'être le fournisseur officiel de ma descendance, même si j'apprécie chaque nouvel achat. Autre réaction sur Twitter de Fefe du 83. Salut l'équipe, je vous remercie pour cette question. J'ai actuellement un MacBook Pro M1 Pro, comme toi Christophe, 16 Go de RAM. Je me tâte à le vendre pour le MacBook Air 15 pouces M3, malgré qu'il me suffise. Mais j'ai peur que sa valeur baisse trop. J'attends vos conseils. On va lui dire d'attendre. Allez, on va lui dire d'attendre.
Hein? Non, mais franchement, je pense que le fait d'avoir un MacBook Pro M1 Pro 16 Go de RAM, très franchement, aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de changer. On l'a vu sur les graphismes, on l'a vu sur les tests, même en jeu vidéo, c'est plus ou moins équivalent quand même.
Wait and see, vivement le M4 ou le M3 Pro avec le prix qui va descendre un petit peu, effectivement, quand le M4 sera là. Allez, ce sera la conclusion de ce premier test et ce premier verdict du MacBook Air M3, tant 13 que 15. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout avec Christophe.
De mon côté, j'ai toujours aimé une marque en particulier, tu vois, des NAS, tu vois, ce sont les petits boîtiers que tu branches sur ton réseau et qui vont te diffuser, enfin te permettre de faire du stockage, te diffuser tes fichiers multimédia, etc. etc. Et cette marque s'appelle Synology. Et très franchement, c'est une marque au top, je trouve, et en particulier un petit NAS de maison qui s'appelle le DS223. Alors, si vous allez sur leur site internet, vous allez
toujours
voir,
des noms très
vous allez répondre à... Vous allez répondre à quelques questions et tout simplement, Synology va vous conseiller le bon NAS pour votre usage. Et je le trouve vraiment plutôt sympa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même que de plus en plus, les abonnements au cloud coûtent cher. Pourquoi pas avoir un cloud en interne. Et en plus de ça, les amis, pour tout simplement rebondir sur l'aspect maison connectée, Homebridge, dont on vous parle si souvent, on peut l'installer sur un NAS Synology. Alors, pourquoi pas?
Et ça marche, contrairement à d'autres, effectivement. Et ce qui est remarquable avec ces Synology, c'est la simplicité relative, mais la simplicité quand même d'installation, d'usage. Les NAS, c'était souvent compliqué. Et Synology, vraiment, a fait de progrès de ce côté-là et a apporté vraiment beaucoup de fraîcheur. De ton côté, Didier?
Bah justement, moi, je trouve ça très bien qu'on parle de stockage, parce que comme les Mac sont devenus anémiques là-dessus, j'utilise beaucoup de SSD. Et du coup, je t'ai amené un peu mes SSD préférés du moment, fonctionnent avec tout le débit. On n'en a pas trop parlé, mais si tu as des anciens LACI et tout, tu n'as pas tout le débit avec les Mac ARM. Mmh. Mais par contre, si tu prends le Samsung, alors celui-là, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est le T9 de Samsung. Donc, tu vois, regarde, je te montre la taille. Ce n'est pas très gros, ça fait 4 Tera, ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai mieux, comme dirait Bonaldi. Ah. J'ai le Crucial. Donc lui,
il
c'est
est tout petit, celui-là.
X10 Pro. Mais regarde-moi la taille de ça.
Non, c'est incroyable. Une carte de crédit.
Donc là, tu as 4 Tera.
Waouh.
4 Tera là-dedans. Mais j'ai mieux, comme dirait Bonaldi. Non, j'ai mieux un peu en termes de taille. Alors, je te montre, tu vois, les trois à côté pour que tu vois. C'est rigolo. Je ne sais pas si
on va bien
faire un plan serré. Ah, ouais, attends, comme ça, peut-être.
Ouais.
Et le petit dernier, là-bas, donc c'est Topcase qui a fait ça. En fait, là-dedans, tu peux mettre les SSD, tu sais, au format un peu PlayStation, et les mini SSD comme ça.
Les NVMe compact, ouais.
Ouais, d'ailleurs, je crois que ça marche même. Je ne suis pas sûr qu'il y a 4 Tera, mais je crois bien qu'il y a 4 Tera, c'est un peu plus cher. Donc, tu peux les mettre là-dedans. Et en fait, ils ont créé ce petit disque donc, qui est en 10 gigabits USB-C. Et ils sont tous en 10 gigabits, ceux-là. Et en fait, ça a été presque créé pour l'iPhone, tu sais, pour pouvoir enregistrer en ProRes. Et en fait, comme c'est hyper compact, tu peux le mettre avec une petite cage et tout, c'est assez facile. Et tu peux même le mettre, ils ont une petite fixation sur les boîtiers. Par exemple, tu as des boîtiers, je sais pas, Blackmagic, enfin, tous ceux qui enregistrent sur des SSD avec le petit port USB, donc ça marche. Et c'est hyper bien ventilé, donc Dockcase. Ils font vraiment des super trucs Dockcase en ce moment. En plus, tu as des cages, des fois, quand tu le retires trop à chaud, tu perds pas tes données, etc. Donc c'est vraiment très très beau. Et ça, je crois que c'était un Kickstarter. Maintenant, je crois que tu peux le commander.
Donc, voilà une belle idée. Voilà une belle idée, effectivement. Le manque de stockage du Mac fait des heureux du côté de CleanMyMac, notre sponsor, mais également du côté des fabricants de disques SSD externes. De mon côté, mon coup de cœur, qu'est-ce que c'est ça, les amis? Vous reconnaissez?
Un iPad.
Un iPad. Et ceci?
C'est le Pencil, non?
C'est un Pencil. Ça ressemble à un Pencil, c'est la couleur du Pencil, mais ce n'est pas un Pencil. C'est le Style X d'Extreme Mac qui vient remplacer un Apple Pencil. Alors évidemment, il est moins perfectionné que celui d'Apple, parce qu'il le gère essentiellement que l'écriture, il gère l'inclinaison, il se recharge hein, en MagSafe sur le sommet, il est aimanté, il a même un petit bouton. Vous allez cliquer et vous passez d'une slide à l'autre ou d'une application à l'autre. Mais il est surtout beaucoup moins cher, 39€ le stylet X d'Extreme Mac. Je trouve ça très mignon, très sympa, c'est vraiment le même design. Il se plug en haut, 39€, hein, il est 4 fois moins cher que celui d'Apple. Alors évidemment, il n'a pas. Il est très stylé, eh bien bravo, bravo, magnifique. Il n'a pas forcément il n'a pas, par contre, ce qui fait la force de celui d'Apple, à savoir la pression, la gestion de la pression de manière fine. Mais si vous avez besoin d'un stylet uniquement pour la prise de notes ou pour les dessins assez grossiers, c'est le stylet qu'il vous faut, 39€. Le stylet X de chez nos amis de chez Extreme Mac. On est loin des 149€ de l'Apple Pencil 2, croyez-moi. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci messieurs pour avoir participé à cet épisode d'En refait le Mac. Didier,
merci beaucoup.
Christophe, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Allez, merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut !